Des maisons construites le long d'une seule rue qui part du fleuve et remonte jusqu'à l'abbaye de style roman, vous êtes à Saint-Guilhem-le-Désert.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, aujourd'hui émission spéciale BD locale. La dernière fois nous avons eu le plaisir de faire une émission avec les auteurs de Marius et Capou, puis une autre avec l'éditeur Jean-Christophe Lopez des éditions Six Pieds Sous Terre. Je vous invite bien entendu à vous rendre sur notre site rphfm.org pour découvrir ou redécouvrir les deux émissions précédentes animées par votre humble serviteur. Aujourd'hui, on ne pouvait pas faire plus local, focus sur une bande dessinée sortie l'année dernière, La Pie de Saint-Guilhem-le-Désert, sortie chez les éditions Gami. Avec nous ici pour en parler les auteurs Sylvain Julien et Cédric Masson. Pour vous présenter un peu, Sylvain, tu travaillais à la base, toi, dans l'audiovisuel. Tu es passionné de bande dessinée depuis l'enfance, si j'ai bien compris. Et à présent, tu t'es tourné vers ce médium, ce qui t'a amené à créer cette bande dessinée avec Cédric, qui, toi, de ton côté, est à la base passionné d'histoire. De ce que j'ai compris aussi, tu as eu une petite carrière artistique où tu écrivais des chansons.
Un roman, écrire, quoi, en général.
Et tu t'es lancé apparemment dans l'auto-édition et participer à la création de cette bande dessinée sur Saint-Guilhem-le-Désert. Donc bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, essayez de commencer un peu par le commencement. Vous avez deux parcours relativement différents, mais comment ça s'est passé un peu déjà votre rencontre
Je ne saurais pas dire comment ça s'est passé la première fois qu'on s'est rencontrés.
Et je crois que tu es venu chez moi.
Je suis venu chez toi
à
acheter des pieds de tomates.
Ouais, je crois que c'est un truc comme ça au départ par Hugo. Ouais.
Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, on a des amis en commun en fait, et puis on s'est rencontrés. Et à la base, ouais, c'était beaucoup de l'achat de pieds de tomates qui s'est poussé chez lui. Rien à voir avec la BD. Et puis en discutant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal d'atomes crochus au niveau culturel, au niveau de la science-fiction, au niveau de la passion du livre, tout ça. La BD, c'est quelque chose que Cédric, il n'était pas encore trop dedans. Et puis, ben voilà, après en discutant petit à petit, on a essayé de mettre en place un projet. Et puis, voilà, ça a démarré comme ça. On s'est mis à écrire ensemble. Et puis, il y a ce projet de La Pie de Saint-Guilhem-le-Désert qui nous a paru une évidence à faire. Et donc voilà, on s'est attelé dessus, quoi.
En fait, au départ, j'avais un roman. Je suis venu voir Sylvain en sachant que lui, il aurait pu m'aider dessus à me faire la mise en page, etc., etc. Il a lu, il s'est dit, mais en fait, t'écris, etc. Enfin, et puis, il m'a proposé cette idée. On a commencé à en parler. On s'est dit, bah oui, bah faut y aller. Et ce qu'il y a d'étonnant avec cette BD, c'est qu'en fait, on croyait connaître Saint-Guilhem-le-Désert. Et en tirant sur les fils de ce personnage de Saint-Guilhem, tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une pelote au bout. C'était un truc de taré. C'est une histoire extraordinaire, en fait. Ce type est extraordinaire. Il est, dans le sens réel du terme, tu vois ce que je veux dire ? Extraordinaire. Il est... C'est le cousin germain de Charlemagne. Il est, enfin, tu vois, c'est un personnage un peu fantasque, quoi. Il est général en chef de ses armées. Il va libérer Barcelone. Et tout à coup, il va aller se cacher dans ce coin paumé ici, qui n'était pas paumé à l'époque, comme on l'imagine aujourd'hui. Et il va monter ce monastère qui aujourd'hui existe encore et qui et nous on avait senti que quelque part les visiteurs de Saint-Guilhem venaient et consommaient ce village, tu vois. Et je pense que dans la BD, enfin je sais pas ce que t'en penses Sylvain, mais dans la BD je crois qu'on leur a apporté autre chose. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas juste une carte postale. Il y a une âme. C'est vraiment quelque chose de profond, ancestral. Ça a 1200 ans. Il s'est passé des choses, quoi.
Oui, ça a une âme, et puis c'est surtout, il y a une histoire qui se déroule depuis 1200 ans et qui a été initiée par ce personnage qui est quand même hyper important dans l'histoire de France, mais qui est complètement passé aux oubliettes, que personne ne connaît. Même ici, dans le coin, en fait, très peu de gens savent quelle a été la vie de ce mec-là. Donc voilà, nous, quand on s'est attelé à ce projet-là, quand on est tombé sur cette histoire et sur ce personnage-là, on avait quelque chose de fort à raconter, et c'était vraiment... Nous, ça nous a permis, comment dire, on a voulu rajouter une pierre à l'édifice du village, quoi. On a voulu participer, on a voulu laisser notre empreinte dans ce village en racontant cette histoire-là, que le visiteur ne va pas avoir, en fait. Il ne va pas avoir accès à cette histoire-là quand il vient visiter. Et pour avoir accès à cette histoire-là, il faut lire des livres d'historiens, il faut lire des livres où il y a du latin dedans et des trucs pas très, très glamour. Et donc, voilà, on s'est dit que la BD pouvait être un média pour pouvoir exploiter cette histoire qui était, et la révéler un petit peu au grand public et aux gens qui viennent visiter, quoi.
Beaucoup de passion, en tout cas quand vous en parlez, et du coup j'imagine que c'est ce qui vous a motivé à créer cette BD. Donc on sent que c'est pas, comme tu disais, juste une carte postale où on se balade un peu. On reviendra peut-être après la manière dont vous avez voulu un peu mettre en scène l'histoire de la BD. Mais du coup, justement, qu'est-ce que raconte un peu cette bande dessinée? Quelle est un peu l'histoire?
L'histoire, à la base, pour rebondir là sur ce que tu viens de dire, effectivement, là, nous, on a fait des recherches historiques et tout ça, mais ça n'a pas démarré par ça. Ce qui nous a fait démarrer, c'est la légende.
La légende.
La légende de Lapi, du géant et de Guillaume, que moi, j'avais lu dans des bouquins, et j'avais lu aussi d'autres légendes qui sont dans le coin. Et cette légende-là, elle m'intéressait à adapter en BD. Et puis ensuite, très vite, dès qu'on a commencé à lire d'autres choses, il y a l'histoire de Guillaume qui est venue se mêler là-dedans. Et du coup, on a essayé de mettre un peu tout ça dans la BD. Et du coup, comme subterfuge, il nous a fallu inventer donc un personnage qui s'appelle Mike Lapi, qui est un chercheur, un historien, un jeune historien en tout cas, qui fait toujours des études, qui est à New York et qui étudie du coup la partie du cloître. Certains ne le savent peut-être pas, mais il y a la moitié du cloître de l'abbaye de Saint-Guilhem qui est dans un musée à New York. Et donc on commence l'histoire à New York avec ce Mike qui va étudier ses pierres et qui du coup va entreprendre un petit voyage d'études pour venir à Saint-Guilhem pour pouvoir étudier la deuxième partie du cloître, celle qui est toujours sur place, et également des pierres qui sont dans le musée lapidaire, sur lequel on a voulu faire un petit focus pour trouver un véritable prétexte de ce voyage, et surtout également pouvoir parler de certaines pierres qui sont...
Des pièces majeures.
Qui sont des pièces majeures et qui sont des véritables œuvres d'art et qui sont dans ce musée. Et donc Mike, en venant à Saint-Guilhem, il va rencontrer des gens, donc on va lui raconter des légendes, on va lui raconter de l'histoire, on va lui raconter plein de choses. Lui, il va ouvrir les yeux, regarder ce village, découvrir un peu ce que c'est vraiment un village qui a déjà 1200 ans, quoi. Lui, il arrive des States, il sait pas ce que c'est. On se balade avec lui dans ce village et au fil de ses rencontres, il y a plein de choses qui vont nous être révélées, quoi.
C'est pas un peu notre Candide? En fait, on utilise un personnage un peu innocent. Donc le lecteur, qui lui ne connaît pas forcément l'histoire, se balade avec lui finalement. Et on va l'emmener avec ce Mike. Et puis il y a un petit truc avec ce personnage, qu'on ne racontera pas, c'est dans le livre évidemment.
On ne va pas révéler les
choses. On ne va pas tout spoiler.
On va pas
divulgâcher. Bien sûr, oui. Divulgâcher, tout à fait. Et du coup, ça vous a demandé un gros travail de recherche. Vous y êtes mis tous les deux. Comment ça se passe de rechercher autant d'informations surtout quand on est deux.
Moi, j'ai un cerveau bizarre qui fait que j'aime ça. En fait, j'ai besoin d'informations. Je cherche tout le temps des informations. Donc, quand tu me donnes un sujet particulier, c'est un bonheur pour moi. Parce qu'enfin, je ne cherche pas au hasard dans plein de choses. je cherche sur un domaine particulier et je vais tout chercher. Parce que j'aime ça, c'est un truc que moi, j'aime ça. Donc après, je compile, tuc, 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 et après, j'essaye de prendre ce qui est le plus intéressant là-dedans.
Même le travail de recherche, il a commencé tout bêtement. Moi, je suis allé à la médiathèque de Saint-Guilhem, je suis rentré dans le truc. Elle est toute petite, la médiathèque. J'ai dit, bonjour, vous avez des livres sur Saint-Guilhem? Ah, il y a toute l'étagère là. Ok, je prends tout, je vais les lire.
C'est
donc
ça.
J'ai pris tous les bouquins qu'ils avaient, on a commencé à lire ça, et puis on a fait des recherches sur Internet. Après, on a rencontré aussi un historien.
Richard Bavalo-Lossade.
On a les gens de la mairie à Saint-Guilhem qui ont été super accueillants et qui nous ont mis aussi pas mal de documents à disposition. Donc voilà, ça a été comme ça. Et après, il a fallu aussi chercher de l'iconographie pour les costumes, savoir comment ils étaient habillés à l'époque et tout ça. Et là, j'ai travaillé. Là, merci à Richard, l'historien, qui nous a aidés sur ce travail-là. Mais j'ai travaillé à partir de gravures qui sont dans des bibles d'il y a 1000 ans, machin. Mais il m'a sorti des documents. C'était génial, de pouvoir avoir au moins une matière visuelle pour savoir où je pouvais aller, où je pouvais pas aller. Enfin, ça, c'était pour la partie historique.
Hein, oui, vraiment. Parce que l'histoire est avancée, l'histoire est inventée, mais tout ce qui est historique est au plus près de ce qu'on peut avoir comme information dans l'état actuel des connaissances, tu vois, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a aussi des trucs qui ne sont pas sûrs. Certains disent oui, certains autres historiens disent non, il y a des bagarres d'historiens, enfin, tu vois, comme dans toutes les sciences. Nous, on a essayé de prendre vraiment ce qui est plus... c'est carré, c'est propre, tu sais, ça tient à peu près la route.
Ouais, et on a essayé de garder ce qui est communément admis.
C'est ça. Et pareil, sur, tu vois, par exemple, Charlemagne, on présente Charlemagne comme Charlemagne à la barbe fleurie. D'accord ? C'est comme ça qu'il est présenté, dans, aujourd'hui encore dans les livres d'histoire.
D'accord.
Charlemagne n'a jamais porté la barbe. Ok ? Un guerrier franc ne pouvait pas porter la barbe. Ça n'existait pas, il n'y en avait aucun. Ils avaient la moustache, ils n'avaient pas de barbe. Charlemagne est présenté régulièrement avec une espèce d'armure de chevalier. Bon, la chevalerie va naître en fait en 1200 à peu près, ou quelque chose comme ça. Attention aux historiens, j'ai peut-être dit de la bêtise, mais en tout cas, en l'an 800, il n'y a pas de chevalier. C'est des guerriers francs, c'est très très différent. Et il y a toute une iconographie en fait, tu vois, qui se joue dans le cinéma, dans les BD, dans les machins, et qui, dans les livres d'histoire même, hein, et qui reste dans les cerveaux, alors que c'est faux. Ça n'est pas vrai, c'est pas comme ça que c'était du tout. Donc l'idée, c'était aussi, j'ai trouvé, et là-dessus, Sylvain, tu vois, tu regarderas, les images de la partie historique sont assez révélatrices, je trouve. Il a réussi à faire des vrais guerriers francs, tels que à peu près on imagine aujourd'hui au niveau historique, ils étaient comme ça. C'est un mélange de Gaulois et de Romains, quoi. Tu vois, c'est pas un chevalier, en fait.
Et c'est vrai que oui, pour les recherches, ça a vraiment été ça, le point délicat. C'était sur cette histoire où les historiens ils sont pas toujours d'accord sur les interprétations des vieux textes, sur ce genre de choses. Et nous, il a fallu quand même arriver à trier le vrai du faux, savoir est-ce qu'on allait garder ça ou pas. Ça a été quand même un gros problème majeur. C'est sur la partie historique de la BD, c'est celle qui nous a demandé au final le plus de travail de recherche. Parce qu'il a fallu vraiment faire du tri et faire des choix importants. Après, sur le reste, moi aussi... D'un point de vue image, j'ai pris mon appareil photo, j'ai fait le tour du village, j'ai mitraillé, j'ai pris le village sous toutes ses coutures et ensuite je me suis imprimé un grand cahier. J'avais un grand cahier de photos du village sur ma table à dessin et du coup pour dessiner les vues, j'avais déjà fait le travail, quoi, en gros.
Beaucoup parlé de la partie historique, après tu as fait une petite allusion de comment tu as travaillé, notamment sur le dessin en prenant quelques photos, tout ça. Est-ce que peut-être tu peux détailler un peu plus ce processus de création, parce que ça reste une bande dessinée, donc qui dit bande dessinée dit dessin. Comment tu as abordé ça?
Alors, ce qui nous intéressait à la base, c'était de faire voir le patrimoine architectural du village, ce que les gens voient en premier. Et ce qui était intéressant, c'était de proposer plein d'images du village, déjà. Donc notre personnage, Mike, quand il se balade dans le village, on a décidé de faire voir certaines maisons, pas d'autres, certains détails, pas d'autres. On fait voir ça. Et ensuite, je me suis aussi amusé à donner des points de vue, comme par exemple la couverture. Tu es touriste ou tu es visiteur, en tout cas, du village, tu viens avec ton appareil photo, cette photo-là, tu l'auras jamais, elle n'existe pas. Tu peux pas avoir ce point de vue. Dans l'église, je me suis amusé à faire une vue du plafond. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais t'avais un drone pour faire cette photo ?»
C'est ça.
Non, j'avais des plans et j'avais mon savoir-faire de dessinateur qui fait que je peux déplacer l'œil du spectateur un peu n'importe où, quoi. Donc ce qui nous intéressait, c'était à la fois de faire voir ce village, mais pas être redondant avec toutes les photos que peuvent faire les visiteurs. Donc voilà, c'était amener des nouveaux points de vue. C'était ne pas manquer les choses essentielles, comme cette place avec ce platane immense,
la cascade.
Comme la cascade, qui est un lieu un peu caché dans le village, c'est que ça. Beaucoup de visiteurs ne voient pas. Voilà, il y avait des choses... On a voulu faire voir les essentiels et en même temps faire voir les petits trucs un peu cachés que les locaux connaissent, que les gens du village connaissent. Il y a même des gens du village qui ont appris des trucs dans la BD... pas que sur la partie historique, mais sur le reste du village. Enfin, voilà. C'était... on avait ce désir de faire une grande balade dans le village où on va faire voir et expliquer plein de choses.
Voilà. Et effectivement, la partie historique n'est qu'une toute petite partie, finalement, de la BD. Et à chaque fois, c'est vrai que, tu vois, dans l'interview, en fait, on reste tellement longtemps dessus, parce qu'il est vrai qu'on aurait pu faire 200 pages sur Saint-Guilhem. Parce que le truc est incroyable. Et c'est pas le fond de la BD.
Le fond de la BD, c'est ce personnage Mike qui va se balader et qui va donc rencontrer aussi les gens du village, qui va surtout se rapprocher finalement de ces légendes. Parce que là aussi, il y a une charte graphique très différente sur le moment historique, sur les légendes. C'est plus Sylvain qui pourrait t'en parler, mais tu vois, pour faire des vraies transitions, quoi. C'est assez tranché. Sur les légendes, on a trois légendes racontées différemment, parce que tu sais bien, une légende, finalement, elle appartient à celui qui la raconte. Et en fait, la légende du château, finalement, c'est une légende qui est un peu différente. Il y a plusieurs versions. Les versions qu'on raconte sont des versions officielles, hein, qui sont racontées.
On a trouvé, je sais pas, 4 ou 5 versions différentes, et nous, on en a choisi 3. Et du coup, on a mis ces 3 versions dans la bouche de 3 papilles qui sont là autour du platane et qui vont alpaguer Mike, qui s'appelle Lapi en plus. Donc le jeu de mots nous permettait de sauter sur la légende. Et du coup, ces 3 papilles vont raconter leurs 3 versions de la légende. Après, au spectateur de savoir laquelle lui plaît le plus ou pas laquelle est la vraie, parce que c'est une légende, quoi. Mais voilà, ça permet aussi de, ça permettait d'amener un peu aussi d'humour, de légèreté sur la fin de l'album où on parle des légendes. Voilà. Il y avait aussi ce désir-là de ne pas en faire un livre d'histoire sérieux.
C'est ça, ça n'est pas un livre d'histoire, en fait.
Ouais, voilà.
En fait, c'est une BD avec une histoire plutôt légère, sympathique.
Ouais, c'est une comédie romantique.
C'est un peu une comédie romantique qui commence, il est amoureux d'un caillou et finalement, tu verras.
Ouais.
Pour recentrer un peu, on va dire, sur l'objet, pourquoi avoir choisi le format de la bande dessinée? Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, parce que c'est parti de ton initiative, si j'ai bien compris, Sylvain. T'es passionné de bande dessinée, donc depuis petit, donc j'imagine que t'en as beaucoup mangé. On pourra peut-être parler aussi des influences, s'il y en a, ou après c'est un cas plus spécifique, cette BD-là. Pourquoi d'un coup, toi qui viens en plus de l'audiovisuel, allez, on part, on y va, l'aventure bande dessinée, quoi.
En fait, je viens de l'audiovisuel, mais ça, c'était déjà il y a un petit moment. C'est quand je suis arrivé à Montpellier pour finir mes études. C'était il y a 20 ans, quoi. J'ai fait de l'audiovisuel, j'ai fait de l'animation, j'étais monteur vidéo, j'ai fait du clip, on a fait plein de trucs, on avait monté une asso. Mais après, ça fait quand même, depuis que je suis tout petit, que je dessine. Il y avait toujours dans un coin de ma tête ce truc d'arriver à faire un jour une BD. Mais ça s'est pas fait, ça a pas été un chemin tout droit, quoi. Après l'audiovisuel, j'ai été graphiste, j'ai bossé en imprimerie, j'ai touché à plein de métiers, en fait, de l'image. Et je me suis un peu fourvoyé sur certains projets qui m'ont demandé trop de temps, qui étaient trop compliqués à développer tout seul. Alors que la BD, ça reste un des médias où tu peux faire tout seul ta BD, tu peux y arriver. Même des BD qui font 150 pages, bah tu t'attelles au travail et ça se fait comme ça, en fait. Donc voilà, ça a fait un peu l'entonnoir, quoi. Petit à petit, toutes mes envies se sont regroupées autour de « bon, ben voilà, maintenant on va faire de la BD, quoi ». Et j'en suis arrivé comme ça à faire de la BD et voilà, c'était chercher un sujet. Et puis ce sujet-là, on pensait qu'il pouvait bien s'y prêter. Parce que c'est un média qui est un peu plus jeune, on va dire, par rapport à d'autres, et qui c'était pas incohérent d'amener cette histoire-là sous forme de BD dans ce vieux village. On trouvait ça intéressant, justement.
Je retourne un peu la même question, mais vers toi, Cédric, sur ce format de bande dessinée. Toi, tu étais familier à cette forme de littérature, et comment toi t'as reçu cette idée de « Ah ok, on va faire une bande dessinée sur ça ».
Alors moi, j'avais déjà travaillé sur le principe de scénario, mais c'est-à-dire plus sur des courts-métrages, des choses comme ça. Donc je voyais à peu près comment on pouvait créer un scénario. C'est vraiment Sylvain qui m'a dit « Tiens, une BD, tout ça ». Moi, l'image, en fait, mon rapport à la BD, il est clair. Quand j'étais petit, j'ai lu, je pense, les BD belges habituels, tu vois. Je suis fan de Gaston Lagaffe, qui est pour moi un héros absolu. Je pense que c'est l'ultime héros pour moi, qui est un philosophe, etc. J'adore ce personnage. Des Achille Talon, parce que je trouve que c'est écrit merveilleusement et c'est d'une telle absurdité dans l'écriture que j'adore. Des trucs qui m'ont marqué, je sais pas, Mafalda, par exemple. Mafalda, moi, mais tu vois, c'est plus des trucs un peu intello, quoi. Des trucs un peu écrits, en fait. Et à côté de ça, j'ai eu aussi cette culture après, mais cette culture plutôt heroic fantasy, science-fiction, parce que c'est ma culture aussi. Donc j'ai lu ça, tu vois, Tardy, ou comment il s'appelle, Jodorowsky, ou tu vois, ces gens comme ça, quoi. Parce que c'est ma culture science-fiction, en fait. C'est pas la BD qui m'avait attiré dedans. Bilal, tu vois, j'adore Enki Bilal, j'adore ses bleus, j'adore... Là, il m'a touché graphiquement. Mais en fait, je suis pas forcément, moi, comme peut l'être Sylvain, touché graphiquement. C'est l'histoire, en fait, qui m'intéresse. Et quand tu arrives à ce que le graphisme Parce que dans la BD, c'est comme un film. Il y a quelque chose d'assez génial. Que moi, j'ai découvert, hein, que je ne connaissais pas. Hein. Par exemple, l'ellipse. Tout est un jeu d'ellipse dans la BD. C'est-à-dire que, et à écrire, c'est un peu particulier quand même. Parce que, en fait, d'une case à l'autre, c'est toi, lecteur, qui va imaginer ce qui est en train de se passer. Comme au cinéma maintenant. Tu vois, au cinéma, c'est très courant maintenant. Il y a le montage qui est fait. Le montage est fait de telle manière que tu comprends bien que quand le mec, il ferme la porte de sa voiture, si après il rentre dans une maison, bah, il a fait le chemin, il a ouvert la porte, il a machin. Tu vois ? Mais ces montages-là, regarde les films des années 50, c'est pas les mêmes montages.
Pas du tout.
C'est beaucoup plus long. Il faut que le spectateur comprenne ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on fait des montages de clips vidéo. Ça va super vite. Mais tu comprends quand même. Et dans la BD, il y a un truc comme ça un peu, tu vois, de montage. Et que moi, j'étais pas à la base initié vraiment hein, par le court-métrage un peu, mais pas dans... Et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré ce principe, le fait que finalement... Moi, j'ai besoin d'écrire. Quand tu décris une scène, quand tu écris, tu dois écrire ce qui se passe autour. Dans la BD, ça n'existe plus tout ça, puisqu'en fait, c'est dessiné. Donc, il y a une autre technique. Et il y a le dialogue.
Peut-être quelques mots sur ceux qui éditent La Pie de Saint-Guilhem.
Tout à fait.
Les éditions Gami,
ouais.
Comment ça se passe? Parce que c'est une maison d'édition assez récente. Hein, si on va sur leur site, hein, par exemple, qui sera en lien dans notre article sur notre site, bien évidemment, il y a votre bande dessinée éditée, ouais. Et il y a un autre bouquin
sur
le Rockstore. Ouais. Donc hein, ça intéressera peut-être
20, les... 20 ans du Rockstore, quelque chose comme ça.
20 ou 25 ans de rétrospective photo du Rockstore. Ouais.
Comment ça s'est passé du coup
C'est Sébastien qui a monté la maison d'édition que je connaissais déjà. Et en fait, il a monté cette maison d'édition pour faire des beaux livres. Lui, c'est quelqu'un de passionné par les livres d'art et ce genre de choses. Et cette maison d'édition, elle a vraiment vocation à faire ça. Quand nous, on lui a proposé le projet, il y avait plusieurs critères qui rentraient dans le jeu. C'était le côté local, le côté BD, le côté histoire qui lui plaisait. Donc, ils nous ont suivis sur cette histoire. Et effectivement, on est le deuxième livre qu'ils éditent. Donc, la maison d'édition est très jeune. Et tout s'est bien passé. J'ai envie de dire qu'on a eu du soutien et en même temps on a eu de l'écoute. Et surtout à la fin, on a une BD qui est vraiment un bel objet,
ouais.
qui a une belle manufacture, qui est bien fait, qui est bien imprimé. Mmh. Les soins ont été apportés là où il fallait, quand il fallait. Même s'il y a un petit peu des fautes d'orthographe qui traînent dedans, mais qui n'auraient plus être là sur la réédition.
Il y a la réédition.
Quelques coquilles.
Ouais, il y a quelques coquilles qui sont restées parce qu'on a été un petit peu pressé par le temps sur la fin de la production.
En même temps, ça fera une première édition collector.
Mais ouais, voilà. Donc dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de la première édition collector avec
les fautes d'orthographe.
Non, mais en tout cas, je confirme, c'est vraiment alors, c'est vrai que c'est un terme un peu général. Quand on dit quelque chose est beau, c'est un bel objet. Mais,
ouais.
Mais c'est le cas. Hein,
ouais.
Là, je l'ai en face de moi. Vous ne pouvez pas l'avoir, malheureusement, chers auditeurs et auditrices. Mais je vous invite, bien sûr, à la commander ou à l'acheter. Et je pense que, comme tu l'as dit, on peut la commander sur les éditions.
Ouais. Après.
D'ailleurs, on va en profiter. Où est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce qu'elle se trouve dans
toute la vallée?
Alors, toute la vallée.
Ouais, on reste sur du local.
Ouais.
Donc, c'est vendu en local de Saint-Guilhem-le-Désert, Gignac, Agnan, Clermont-l'Hérault, Lodève,
ouais.
Dans toutes les librairies. Et après, un petit peu sur Montpel aussi. On est chez Sorams, on est chez Entrée Libre. Et je crois qu'il y en a encore une ou deux de librairies, mais dont j'ai pas les noms en tête. Sur Montpellier.
Mais ça reste local, ouais. On
ça
est
reste
vraiment
très local.
Sur du local.
Et pour finir avec les éditeurs, au final, nous, on est arrivés, on a proposé ce projet, ils se sont greffés dessus, ils nous ont suivis. Avant qu'ils sortent le projet, eux comme nous, on savait pas où on allait. Et en fait, l'accueil du public a été plutôt bon. Et donc, je pense qu'ils sont aussi fiers et satisfaits de ce qu'on est arrivé à faire ensemble. Et ce bouquin-là, c'est notre première collaboration. Et puis maintenant, il va y en avoir d'autres.
Surtout qu'on fait donc la réédition, là, puisqu'on va avoir terminé de vendre toute cette première édition. On fait donc ils nous suivent, c'est quand même eux qui sont là. Hein. Ils nous suivent sur une traduction en anglais, puisqu'en fait, peut-être moins nos éditeurs, mais en tout cas, nous, je crois qu'on aimerait bien quand même qu'il y en ait quelques-uns qui soient vendus à New York, au Metz, au Cloisters Museum du Metz de New York, où commence notre histoire. Parce que ce serait un petit plaisir égotique d'auteur, peut-être, mais ce serait surtout super kiffant, tu vois, de se dire, ouais, on a nos BD à New York, quoi, il y a quelque chose de génial. Et puis surtout, ils nous suivent sur la suite, tu vois, on va continuer avec eux, là, on est sur une autre BD. On est sur l'idée, comme on t'a dit, alors pour l'instant la collection n'est pas faite, mais l'idée ce serait plutôt d'arriver vers peut-être une collection qui serait Histoire et légende de la vallée de l'Hérault, travailler encore une fois en local, être sur des histoires qui nous intéressent tous les deux, et on serait pour l'instant ils nous suivent en tout cas.
Ouais, donc ça c'est chouette, la collaboration a commencé avec ce livre et puis ça va se poursuivre. Nous, ça nous ouvre des nouvelles perspectives. Donc, comme il disait Cédric, on veut faire une mini-collection Histoire et légendes de la vallée de l'Hérault, parce que des légendes, il y en a dans quasiment chaque village.
Ouais.
Et de l'histoire, on voit bien avec Saint-Guilhem, hein, c'est là-bas perdu au fond de la vallée, mais il y a 1200 ans d'histoire. Donc, tout ce qui est autour, c'est un peu équivalent. Et là, on a un prochain projet sur lequel on est déjà en train de travailler, là, qui va concerner la grotte de Clamouse. On n'en dit pas trop pour le moment, ouais. Mais voilà, ça va être une histoire autour de la grotte de Clamouse qui va raconter à la fois l'histoire et les légendes de ce lieu qui est aussi quand même assez...
emblématique.
Assez emblématique, ouais. Et qui est aussi assez exceptionnel, qui a ses particularités aussi, qui fait que ça nous donne envie d'en parler.
Qu'il est assez, comme on disait tout à l'heure, extraordinaire. Voilà, vraiment.
Tout à fait. Et en plus...
Clamouse, c'est particulier en fait. Au début, tu crois que c'est juste une grotte et puis après tu te dis, pareil. Tu tires la ficelle, tu fais Ben non. Voilà. Ah non. C'est génial. Ce truc-là, je trouve ça, c'est ce que j'aime dans la recherche en général, tu vois. C'est que d'un petit truc, t'as une petite cordelette, là, tu tires, ça devient une grosse corde, et à la fin, ça devient un truc énorme. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a quelque chose de. Ouais, moi, je crois que tous les deux, on aime bien ce truc-là, quoi.
Ouais.
Surtout que la grotte de Clamouse se trouve entre Saint-Jean-de-Fosse et Saint-Guilhem-le-Désert, donc vraiment on reste dans le cœur de la vallée.
Ouais.
Alors en off, on parlait aussi un peu de quelques... Enfin, il y avait les futurs projets, c'est le futur projet sur la bande dessinée de Clamouse, peut-être une collection aussi, autre chose je crois.
Ouais, alors là c'est pour encore revenir sur ce truc de recherche et de de la BD qu'on a sortie, la partie historique qu'on a fait à l'intérieur de la BD, il y a une douzaine ou une quatorzaine de pages sur la partie historique. Et en fait, quand elle est sortie, la BD, la mairie de Saint-Guilhem nous a proposé de faire une exposition autour de la création de la BD, qui serait dans le cloître de l'abbaye. Et nous, du coup, on a choisi d'exploiter ces planches historiques pour les exposer dans le cloître. Donc l'exposition est toujours là. C'était prévu pour être une exposition éphémère, mais ça a tellement plu à la mairie qu'en fait, elle va rester là à l'année, l'exposition. Donc il y a, ça revient aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on amène notre pierre à l'édifice dans ce village. Et voilà, ça reste sur les murs. Il y a aussi ces choses-là que les visiteurs peuvent voir, peuvent lire et peuvent apprendre en visitant le village. Voilà, c'était aussi une manière pour nous de laisser une empreinte vraiment dans le village, quoi. Et pas que la BD. Enfin, ça reste la BD, mais elle est sur les murs et c'est différent.
On a réécrit aussi, c'est-à-dire voilà, que c'est pas la BD, c'est les planches. Et après, on a fait toute une réécriture pour que le spectateur qui passe devant puisse avoir...
Ça ressemble plus à une exposition.
Voilà, ouais. Qu'il puisse avoir assez facilement l'idée de se dire qui était ce Saint-Guilhem.
On va bientôt... On arrive au bout un peu de notre entretien qui est... vraiment très très riche. Est-ce que vous avez là maintenant une pensée, quelque chose qui vous vient à l'esprit, quelque chose dont on n'aurait pas parlé peut-être sur la Pie de Saint-Guilhem?
Si les gens voulaient nous rencontrer par exemple, on va être
à la Comédie du Livre, dont j'ai oublié la date mais qui est en juin. On va être pour
à
les dédicaces. Ça sera sur la promenade du Pérou, je crois qu'on y est deux jours d'affilée, et ça il faut que je revoie avec les éditeurs, je sais plus exactement, mais en tout cas on sera là-bas pour faire les dédicaces, et après la BD on la retrouve toujours dans les points de vente qui sont là. N'hésitez pas à visiter le village, à profiter de l'exposition, rentrez dans le musée lapidaire, allez voir les pierres qu'il y a à l'intérieur, qui sont complètement mésestimés, mais qui sont de formidables œuvres d'art.
On était que l'année dernière, un chapiteau a été rendu, et là...
Et cette année, ils ont un nouveau pilier qui est arrivé dans le musée. Voilà, nous aussi dans la BD, on a voulu parler aussi de ça, de ce musée, des pièces qui y sont à l'intérieur.
Ouais.
C'est des choses que les visiteurs regardent vite fait en passant, alors qu'il y a vraiment des choses qui sont exceptionnelles. Donc voilà, c'est juste ça. Allez visiter le village, profiter de l'exposition, profiter de ce qu'il y a, profiter de l'ombre du platane pour boire un coup. Et puis voilà, kiffer quoi. Et puis si vous voulez acheter la BD, achetez-la.
Faites comme Mike.
Ouais, allez boire un coup à la Lassarde là-haut, vous serez bien.
Ouais.
Ceux qui écouteront en tout cas, ou qui écoutent cette émission, verront Saint-Guillaume le désert sous un autre œil. En tout cas, les auront rendus curieux et leur feront voir les choses différemment. Bien évidemment, hein, je vous invite à commander ou à lire la BD dans une médiathèque ou qu'importe, par tous les moyens. Merci à vous deux d'être venus, c'était vraiment très intéressant de vous entendre parler un peu du travail que vous avez fait.
Merci Pablo.
Et eh bien, chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette émission spéciale BD locale sur la Pie de Saint-Guilhem-le-Désert. Je vous souhaite une prochaine fois sur RPH et RPH Sud.